En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, monsieur, bonjour. Canal Académie vous propose d'entendre les discours de la réception à l'Académie des Beaux-Arts du peintre Chu Te-chung, prononcé sous la coupole le 3 février 1999. Vous entendrez d'abord monsieur Jean Cardo de la section sculpture accueillant monsieur Chu Te-chung, originaire de Chine orientale et venu en Europe en 1955. Puis vous écouterez l'éloge que M. Chu Te-chung a consacré à son prédécesseur, M. Jacques Despierres, de la section peinture. Restez sur Canal Académie et entrez sous la coupole.
Chaque artiste est à lui seul un univers. Celui qui fait apparaître votre œuvre offre une richesse inégalée dans l'art contemporain. Je tenterai d'en retracer la genèse et d'en esquisser les traits à l'occasion de votre installation à l'Académie des Beaux-Arts, où mes choix aujourd'hui l'honneur de vous recevoir, et qui, par ma voix, vous exprime ses souhaits de bienvenue les plus chaleureux. Vous êtes né en 1920 dans la province de Yangtze, d'une famille de lettrés. Votre père, comme votre grand-père, exerçait la profession de médecin. Collectionneur de peintures chinoises et de calligraphie, il peignait lui-même à l'encre de Chine. Vous avez connu durant toute votre enfance, à Paituchen, une vie paisible, évocatrice de celle que décrivait au début du IXe siècle le poète Paitui, parlant d'un village situé à quelques lieues du vôtre. Aux alentours de Chuzhou, il est un village du nom de Chuzhen, à 100 lis du chef-lieu parmi les champs de chanvre et le verdoiement des mûriers. On entend le tic-tac du rouet, ânes et bœufs encombrent les rues du village. Les jeunes filles vont puiser l'eau du ruisseau. Les hommes s'en vont ramasser du bois sur la colline. Si loin de la ville, rares sont les affaires de gouvernement. En ce coin reculé parmi les collines, simples sont les façons des gens. Dans tout le village, il n'y a que deux clans. D'âge en âge, les Tchous ont épousé des chaînes. À ces images bucoliques succèdent des bouleversements qui imposent au poète une existence mouvante à la merci de tous les dangers. J'ai marché le matin les traits tirés par la faim. J'ai passé bien des nuits sans trouver le repos de l'esprit. Errant sans trêve d'est en ouest, de ci de là, tel un nuage à la dérive dans le ciel. Dans la guerre civile fut détruite la maison de mon enfance. De tous ceux de mon sang, beaucoup sont dispersés, beaucoup s'en sont allés. Vous avez subi, vous aussi, l'adversité et vécu les épreuves d'une époque troublée. Au sortir du lycée, vous aviez commencé en 1935 vos études à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Rancho, déjà fort réputée. Mais les nuages s'amoncelaient. Le 7 juillet 1937 éclatait la guerre sino-japonaise. Ce fut pour l'école le début d'un mémorable périple. D'étape en étape, sans que cessent ni les cours ni l'entraînement, professeurs et élèves traversèrent la Chine d'est en ouest, au sud du Yangtze, parcourant en 3 ans 5 provinces. Après une longue halte en 1938 dans le Runna, où votre école avait fusionné avec celle de Pékin, puis dans le Kyushu, en 1939, ils atteignirent Kunmi, sur le haut plateau du Yunnan, où ils firent un séjour prolongé. Infléchissant leur itinéraire vers le nord, ils pénétrèrent en 1940 dans le Sichuan, où ils s'installèrent à Songlikang. C'est là qu'en 1941, vous fûtes conféré brillamment le diplôme couronnant vos études de peinture et aussitôt confié la fonction de professeur assistant. Au bout de 2 ans, vous étiez promu professeur titulaire. En 1942, l'école quittait Songlikang pour rejoindre Champingpa, aux environs de Chongqing, capitale des années de guerre où était repliée l'université centrale de Nankin. Nommé professeur à cette université, vous y avez enseigné le dessin de 1944 à 1947, exposant par deux fois à Chongqing. En 1947, le corps enseignant et les étudiants se déplacèrent cette fois d'ouest en ouest par voie fluviale pour réintégrer Nankin. La descente du fleuve bleu vous a laissé des impressions inépuisables. Vous avez franchi les trois gorges du Yangtze où la navigation est difficile. Les visions retenues de ce périlleux parcours, rivages escarpés, rocs vertigineux, rapides écumants, arbres dressés au-dessus du brouillard, ciel d'azur après la tempête, seront pour vous, plus qu'un simple souvenir, une source d'inspiration toujours vivante. Durant la période nomade qui a couvert presque 10 ans de votre vie, vous avez traité les motifs les plus divers, usant de techniques variées. Aux peintures murales et affiches patriotiques du début de la guerre succédèrent de nombreux croquis des tribus Miao du Yunnan et des chevaux venus de Sichuan, mais surtout d'innombrables paysages. Une tempête sur le Yangtze eut raison de quelque 800 dessins. Des œuvres déposées en divers lieux, il ne reste rien. Qu'importe, vous alliez votre chemin sans regarder en arrière, ce fut là un premier renoncement. Professeur à l'Université centrale de Nankin, vous avez séjourné de 1947 à 1949 dans cette ville redevenue capitale de la Chine. Après une visite au pays natal et la dernière rencontre avec votre mère, vous repreniez en 1949 votre migration pour rallier Taipei, où vous vous êtes établi. Nommé en 1951 professeur au département des Beaux-Arts de l'Université normale nationale, vous y avez enseigné la peinture occidentale, jouant un rôle moteur dans la communauté artistique. L'exposition de 1954, préparée en vue de votre voyage à Paris, fut un succès. Vous auriez pu, entouré de l'estime générale, poursuivre une carrière toute tracée. Mais l'œuvre à créer vous poussait vers d'autres rivages. C'est ainsi que, laissant tout, vous êtes venu en Occident. Ce fut un deuxième renoncement. Cependant, les liens spirituels qui vous rattachaient au monde chinois n'étaient rompus qu'en apparence. Après le silence d'une longue absence, ils devaient être renoués avec brio, comme le prouvent les visites et les expositions des récentes années, car la Chine vivait au plus profond de vous-même. Pour vous, la direction était claire. Parti de Taïwan sur bateau le 29 mars 1955, vous avez fait escale à Hong Kong, Saïgon, Ceylan. Mais l'étape la plus marquante de votre voyage fut l'Égypte, où la vision directe des sculptures et des peintures antiques suscita en vous, par la pureté des lignes et la fraîcheur des coloris, des impressions neuves. Parvenu à Marseille, vous éprouviez l'émotion de savoir votre but tout proche et la hâte de rejoindre Paris. C'est la destination que vous aviez choisie, assumant en dépit de votre stabilité innée le risque d'une existence précaire, dans un milieu artistique où vous étiez inconnu. La qualité de votre talent, votre intense capacité de travail et votre ténacité, votre sens de l'amitié vraie, la modestie de votre abord alliée à la conscience de votre valeur ont conjuré ce risque. Très vite accueilli et apprécié tant par les peintres que par les critiques d'art, vous avez noué des relations de confiance amicales basées sur une recherche commune et un idéal partagé. La sculpture n'était pas étrangère à vos réflexions. Vous avez par la suite exposé à plusieurs reprises avec Albert Ferrault. Une artiste qui aimait la Chine et comprenait vos aspirations, vous l'avez présentée peu après votre arrivée. Elle vous fit connaître également le père Egamet, spécialiste de l'art contemporain, très attentif au nouveau courant de la peinture. Vous ne cherchiez pas à Paris un succès facile et immédiat, en faisant vibrer la corde de l'orientalisme. Vous préfériez que mûrisse en Occident votre propre conception de la peinture universelle. Vos premières œuvres parisiennes sont encore visiblement figuratives, mais votre recherche s'oriente peu à peu vers de nouveaux domaines à explorer, où votre dynamisme créateur puisse s'exercer plus librement. Vous vous dégagez, et c'est là un troisième renoncement, d'un ensemble de repères qui canalisaient votre inspiration. Et vous vous fiez désormais entièrement à ce même courant intérieur, à la fois intuitif et actif, pour créer en toute indépendance un nouveau langage n'appartenant qu'à vous. Citons Pierre Cabanne. Tchoutéchoum appartient à cette génération où, si la représentation du réel n'est pas directement identifiable, c'est parce que le peintre accorde la priorité à l'essence, et pourrait-on dire à l'idée des choses, à la connaissance plus qu'à la ressemblance. Les peintres dont la découverte vous donnera un choc ne vous influenceront pas par leur style, mais par leur attitude fondamentale et par leur esprit. Ainsi en est-il de Nicolas de Staël lors de la rétrospective présentée en 1956 par le musée d'art moderne de Paris. Rappelons vos propos extraits d'une interview publiée en 1978 par la revue Artiste de Taipei. De Staël fut pour moi une grande révélation. Auparavant, j'étais un peintre objectif. Mais à présent, je ne m'intéresse plus à cette façon de peindre. Parce qu'après avoir commencé à étudier la peinture abstraite, j'ai ressenti profondément et avec évidence la liberté d'expression dont elle témoigne. Sans vous apparenter aucunement au style qui caractérise Nicolas de Staël, vous avez acquis grâce à lui une certitude définitive. La liberté du pinceau est souveraine. Elle est l'unique règle et seule l'individualité du peintre modèle le style au fur et à mesure de son évolution. En effet, cherchant sans relâche à vous distancer de tout ce qui pouvait nuire à la liberté de votre expression, vous avez bientôt perçu les limites que vous imposait un certain type de graphisme et un appel à les dépasser. Une autre expérience déterminante vous fut fournie par l'exposition commémorant Amsterdam en 1969, le tricentenaire de Rembrandt. Pour la première fois, vous était donné sans intermédiaire et dans son ensemble une vision de cette œuvre qui éveilla en vous d'intimes résonances. Là non plus, on ne saurait parler d'influence, ni même de parenté. L'affinité est plus profonde. Rembrandt vous a frappé par la qualité, on serait tenté de dire par la vérité inégalée de son œuvre, au-delà des époques et des styles. Il vous a incité à remonter toujours plus loin vers les sources de l'art. À mesure que vous avancez, le graphisme procède plus librement, selon des tracés plus souples et des courbes qui s'intègrent à la composition pour en accentuer les contrastes. La Chine retrouvée n'est peut-être pas sans rapport avec cette écriture. Tout au long de votre parcours, la figuration s'est intériorisée. Elle n'est pas éliminée. Elle est devenue un contenu spirituel transmis de façon immédiate hors des formes connues. Ce processus engendre un espace que Maurice Panier qualifie de « multidimensionnel ». Jean-Clarence Lambert y voit une poétique de l'espace naturel. Hubert Join note « Je me persuade que Tchoutéchoum n'est nullement un peintre abstrait. Il ne peut du tout s'isoler de la saveur du monde. » Et Pierre Cabanne déclare à sa suite « Tchoutéchoum a créé un pays où l'on n'arrive jamais, sinon dans ses tableaux. Il a d'ailleurs hésité longtemps avant d'y entrer. Puis il s'est décidé à le regarder, à l'écouter, avant de s'en imprégner et de le pénétrer de plus en plus profondément. Observons à notre tour que le contenu spirituel de votre œuvre n'a cessé de gagner en plénitude. L'imposante liste de vos expositions, dont le nombre m'oblige à être sélectif, reflète votre incessante activité. Depuis votre première manifestation à Paris, à la Galerie du Haut-Pavé, vos œuvres régulièrement présentées à la galerie que dirige Maurice Panier ne tardent pas à figurer à des salons ou des expositions de groupe. En 1961, à la Galerie Charpentier avec l'École de Paris et au Salon de Mai. Puis, en 1964, au Carnegie Institute de Pittsburgh, à Jérusalem et à Athènes. En 1969, une salle entière vous est réservée à la Biennale de Sao Paulo. Parmi vos expositions personnelles, en France et en Europe, citons celle organisée à Paris en 1979, lors de la publication de la monographie d'Hubert-Join, puis en 1982 au Musée des Beaux-Arts du Havre et en 1988 au Musée d'Art Moderne de Liège. En 1993 paraît dans la collection Cercle d'Art la très importante monographie de Pierre Cabanne. La même année est inaugurée à Québec, sous l'égide de l'Association française d'action artistique, l'exposition itinérante Signe Premier, qui, parcourant tout le Canada, présente vos œuvres avec celles de Quigenot et de Riopel. L'ampleur de ces manifestations culturelles vous est l'occasion de privilégier les grands formats où votre inspiration se déploie sans entrave. À mesure que votre notoriété s'affirmait en Occident, vous reteniez de plus en plus l'attention des milieux artistiques dans le monde chinois. La visite à Paris en 1979 de deux de vos anciens professeurs, ainsi que d'un ami qui fut votre condisciple à Hangzhou ou Quanzhong, ouvrit les voies d'une reprise de contact avec la Chine continentale. En 1983, vous y étiez invité par l'Association des artistes de Chine, dont la plupart furent vos compagnons d'études. De Hong Kong, où l'université chinoise vous a appelé à siéger au jury des examens terminaux, vous avez gagné Pékin. L'émotion de retrouver des amis de longue date, après une pénible séparation, thème cher au poète chinois, fut pour vous une expérience vécue. Vous avez ensuite parcouru la Chine, admirant trésors d'art et paysages, depuis le musée des stèles gravées de calligraphie près de Xi'an jusqu'aux montagnes jaunes, les Rongshan, aux reliefs tourmentés. Votre dernière étape fut Rancho. Ces voyages en Extrême-Orient rythment désormais votre existence. En 1987 se tient à Taipei, au Musée national d'histoire, une importante rétrospective de vos œuvres depuis 1955. Après une exposition itinérante à Taïwan et un pèlerinage au pays de vos ancêtres, vous exposez en 1994 à Singapour. Enfin, en 1997, se réalise le projet que tous vos amis souhaitaient voir aboutir. L'exposition itinérante, organisée par l'Association française d'action artistique, est d'abord présentée officiellement à Pékin, au Palais des Beaux-Arts de Chine, puis au Musée des Beaux-Arts de Hong Kong, Kaohsiung et de Taipei, où l'exposition se clôture en août 1998. Sur le catalogue trilingue, publié à Taipei, figure un article de fond du professeur Li Chuqing. La réponse du grand public fut enthousiaste. Au fur et à mesure qu'elle vous découvre, la Chine se reconnaît en vous. Au moment où approchait de sa conclusion cet événement artistique décisif en Extrême-Orient, vous étiez le 17 décembre 1997 élu membre de notre académie au fauteuil de Jacques Despierres. Homme d'une grande culture et d'une honnêteté intellectuelle exceptionnelle. Ancien professeur, Jacques Despierres avait comme vous la conviction que seule une parfaite connaissance du métier pouvait servir la sensibilité et la poésie auxquelles on reconnaît le talent. Votre œuvre s'accomplit suivant une ligne continue dans la régularité d'une vie d'ordre et de travail qui fait votre force. Vous habitez depuis 1990, tout près de Paris, un pavillon à l'intérieur accueillant et harmonieux, à côté duquel vous disposez enfin pour peindre d'un espace conçu à la mesure de votre inspiration. Votre vaste atelier est un lieu propice à l'isolement créateur. Les journées que vous y passez, loin de toute agitation, préparent les phases d'expansion où vous allez à la rencontre du monde extérieur. Vous lui apportez une abondance d'impressions et de sentiments qui ne se limite pas au domaine visuel. Regarder une peinture, disiez-vous en 1987 à Michael Sullivan, professeur à Oxford. C'est comme écouter de la musique. Thèmes et titres se complètent pour communiquer au spectateur les vibrations de votre monde intérieur, évoquant pour lui la jouissance d'un moment musical ou la majesté d'une architecture transfigurée, ainsi les parvis de l'inaccessible ou les portes de l'aurore. La plénitude d'une émotion ou encore la conscience du simple rythme des heures et des saisons. Ailleurs, vous parlez le langage de l'épopée, du mythe ou des événements cosmiques. Vous explorez le mystère de la matière, fluides cristaux, lumière captive. Enfin, sous des titres suavité et jeux immatériels, vous faites surgir un instant de pure poésie aux résonances shakespeariennes de la même étoffe dont sont faits les songes. Quand je travaille dans mon atelier, expliquez-vous, au cours d'une récente conversation, il n'y a pas de distance entre la nature et moi. Nous ne faisons qu'un. Cette force vivante à laquelle vous vous identifiez construit l'unité sans faille de votre œuvre. Nous voyons en vous un artiste dont la puissance créatrice a su dominer une expérience d'une rare amplitude. L'envergure de votre personnalité confère à notre académie un rayonnement nouveau qui s'étend bien au-delà de nos frontières. Je suis d'autant plus heureux de vous accueillir aujourd'hui, au nom de tous nos confrères, non seulement avec l'enthousiasme que suscite l'œuvre accomplie, mais avec le souhait et l'espoir de voir éclore les promesses qu'elle contient pour les jeunes peintres à qui vous montrez la voie d'une authentique inspiration. Merci.
Je remercie notre confrère Jean Cardo et le félicite de sa prononciation des mots chinois. Et je donne la parole à M. Xu Teixun pour l'hommage qu'il va rendre à Jacques Despierres, qui fut dans notre académie l'un des membres les plus éminents.
Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chancelier, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le président, mes chers confrères, Madame et Messieurs. Dans la coupole trois fois centenaire, chef-d'œuvre de pureté et d'élégance, en ce haut lieu où tant d'esprits distingués autour d'eux réunir élisent de la culture française et où, grâce au choix dont vous m'avez honoré, je suis présent aujourd'hui, je ne puis m'empêcher d'être ému à l'idée de prononcer l'éloge de mon prédécesseur dans une langue, je mesure les exigences. Je suis venu à Paris au printemps 1955 pour y trouver la réponse à une aspiration profonde. Je devais découvrir ma propre voie grâce à la connaissance directe et à la pratique assidue de la peinture occidentale. Celle-ci m'était déjà familière puisque jeune professeur, je l'enseigne en Chine à mes élèves de Beaux-Arts. Installé dans la capitale, je me forçais de progresser dans l'usage d'autres langues dont je ne possédais alors que le premier rudiment. Je continuais à en explorer les richesses lorsque me fut accordé en 1980 le privilège de devenir votre compatriote. Depuis lors, adopté par la France, me voici en ce jour mémorable accueilli au palais de Conti, où dépassant tous mes espoirs et comblant de vœux que je n'osais à peine formuler. Vous m'avez rappelé, messieurs, assiégé parmi vous à l'Académie de Beaux-Arts. Ici fut reçu le plus célèbre de nos peintres, de nos sculpteurs, graveurs et architectes, et de nos compositeurs, chorégraphes et cinéastes. Je suis heureux de rendre hommage à l'un d'entre eux en retraçant la carrière et l'œuvre de l'éminent artiste qui m'a précédé. Jacques Despierres, enfant de la Palle, comme il aimait à se désigner, naquit à Saint-Étienne le 7 mars 1912 dans une famille qu'il disait adorable. D'une mère alliant intelligence à la culture, est un père remarquable, le peintre et de Montseria, d'origine savoyarde, homme cultivé, extrêmement artiste, aussi doué pour la peinture que pour la musique. Écrit Lydia Rampour dans son dictionnaire de peintre de l'école de Paris. Par modestie à l'égard de son père, je ne sais rien, prendra plus tard le pseudonyme, nous le connaissons, Jacques Despierres. Et de Montseria, venu vivre à Paris avec sa famille, encourage son fils à développer son goût inné pour le dessin. Il mène au musée du Louvre où cet enfant de 6 ans est émerveillé par Chardin, Corot et surtout Delacroix, dont l'œuvre lui laissera une empreinte durable. Jacques Despierres, fidèle à ce premier enthousiasme, admira chez ses peintres le climat de liberté qu'il a toujours hanté. À 17 ans, ayant terminé ses études au collège Stanislas, il décide de suivre sa vocation naissante. Avec l'accord paternel, il s'inscrit pour 2 ans à l'Académie Colarossi, qui se veut d'un des creuseurs de l'école de Paris. L'enseignement qu'il y reçoit est au l'antipode de l'art officiel, hérité de la génération précédente. En 1929, a lieu la rencontre décisive avec Jacques Dufresne, un peintre ami de son père, qui lui conseille l'école de Beaux-Arts. Il travaillera sous la direction de Lucien Simon afin de réaliser sa vocation d'artiste, dont il affirmait « Elle est plus forte que moi, car je ne pourrai rien faire d'autre que de la peinture. » Vous comprenez ? Jacques Dufresne comprenait tout en mieux que lui-même et était passionné. Jean de Pierre était passé de journée à peintre et se nuit à feuilleter de recueils de dessins de maître. Il est copié par centaines pour corriger ce propre croquis. Il dessinait partout, à tout propos, à une allure, sans pour autant régner le romantisme caché au fond de son âme. Une fois la technique de dessin maîtrisée, Despierres peut approcher le métier de graveur que son père l'incite a choisi pour gagner sa vie. Il ne tardera pas à exceller dans ce domaine, à tel point qu'en 1930, il illustrera son premier livre, Promenade et souvenirs, de Gérard de Nerval, bientôt suivi d'autres auteurs, Rick, Stendhal, Giraudoux, Mauriac Morin, Genevois. Mais ce qu'ils étaient avant tout, ces peintres, et fréquentèrent les galeries ou figures, Prague, Picasso, Terrain, Léger, Bonnard. Un instinct très sûr, l'aide a-t-il signé l'importance de ces peintres dont il décrit ainsi le rôle. Il était pour nous le jeune, le chez-nous qui nous permettait de nous rattacher au passé et d'essayer de découvrir sans contrainte un autre présent ou un autre avenir. Le soir venu, il va discuter des heures durant dans un des cafés habituels et parler de principal égyptien du moment avec sa contemporaine Kuiper, Tadgott, Tailleur, Préier et surtout Rimbaud et Rouner, dont l'amitié l'escordera toute sa vie. Grâce à son père, l'occasion lui est offerte de rencontrer ses aînés, grand-mère et Jacques Villon. Villon lui fait connaître la proportion idéale, dite section d'or. C'est ainsi qu'il avait réuni plusieurs artistes d'inspiration cubiste et présenté avec eux en 1912 une exposition de groupe qui fut un événement majeur. Quant à grand-mère, de Pierre voit dans lui un des très grands peintres de notre époque, ainsi qu'un excellent dessinateur dont le paysage à la volume influenceront ce propre dessin du Val-de-Loire. Il n'a jamais partagé le pessimisme de ceux qui proclamaient « n'y a plus rien à dire, plus rien à inventer ». Picasso a ouvert toutes les portes et les a toutes refermées derrière lui. Jacques de Pierre croyait à sa peinture, il se presse à consacrer sa vie. Il expliquait à Roger Bouillot, sans prétendre innover, Cézanne, Monet, Picasso, les fauves, Dada et surréalistes l'avaient fait avant lui. Il ne cherchait qu'à transmettre sa propre vision. Il voulait communiquer son émotion avec le plus d'amour possible, avec le plus de connaissances possible et avec le moins d'intellectualité possible. Et il ajoutait, il faut remuer, comme le disait Matisse, le fond sensuel de l'homme. Il y a 20 façons de le remuer. Vous pourrez le remuer avec la couleur, avec les dessins, avec la ligne. Il construisait ainsi, peu à peu, à la façon d'un architecte, son propre style. Le président Paul Belmondo, le recevant le 27 mai 1970 à notre académie, où il succédait Édouard Goëcq, sut avec bonheur définir le caractère de mon prédécesseur et la qualité de son œuvre. Vos tableaux, soulignait-il, ne sont pas des dessins remplis de taches colorées, mais une harmonie de couleurs tournant de volume à l'image du modèle. Des couleurs à la fois fougueuses, fastueuses, limpides, éclatantes. Et de conclure, vous êtes un classique dans la tradition de Poussin, de la Croix, Cézanne, c'est-à-dire que vous pratiquez un art humain pour les yeux et pour l'esprit. Que ce soit dans les prunes de Roland, au soleil éblouissant de la Grèce, dans la campagne florentine, dans les rues de petites portes de la Méditerranée, ou sur le fleuve paresseux du Val-de-Loire. Jacques de Pierre, vous restez un homme de plein air. Devenu parisien, il avait encore plus besoin du contact avec la terre, l'eau, le vent, le ciel, l'horizon, dont il savait retenir sur ses toiles et sur ses fresques l'intense poésie. Sensible aux moindres de nuances de la nature, il gardait la simplicité et l'authenticité de l'homme de la glèbe. Tout enfant déjà, il se sentait terriblement attiré par tout ce qui touche à la terre et à l'eau. Le bord de la Seine ou de la Loire, les rivières de l'Ardèche où il prenait plaisir à accompagner son père pour pêcher la truite. Pour Valdemar Georges, le paysage de Jacques de Pierre sont de géométrie sensible et frémissante. La lumière n'y agit tous qu'elle communique à l'atmosphère une sorte de couleur sentimentale. On pouvait le rencontrer sur les plages de Thiepes ou de la paix de la Somme, tenant à la main son carnet couvert d'esquisses aquarellées et de croquis de falaises, de la grève ou du port. Quand il parcourt les canaux de Venise ou les ports de Hollande, il fixe sur la toile le mystérieux dialogue du ciel et de l'eau. Il en arrive ainsi, par débouillement progressif, à se bataille du gris et du blanc, où notre Jean Bourret seul compte l'arabesque d'un trait de construction. À partir de 1960, il retourne chaque année au pays de son épouse. La Grèce sera pour lui une source d'inspiration, tant par sa lumière que par son art et sa mythologie. L'écrivain Pierre Cabanne se déclare séduit par ces îles, semées comme de fleurs de marbre sur la mer, ce village blanc et gris, ces églises aux dômes bilbeux et ces ruines au profil tragique. Lorsqu'il traite ce motif favori, De Pierre nous en fait saisir la réalité concrète et immédiate. Observons ces hommes aux lapeurs, pêcheurs, mariniers, moissonneurs et ces femmes, lavandières ou marchandes de quatre saisons. Regardons ces personnages vigoureux qui peinent et qui nous rappellent des senteurs d'épices et de fleurs, de foin coupé ou de poissons tout frais pêchés florant bon la marée. Contemplons ce port de mer peuplé de formes actives ou nonchalantes. Nous y voyons marcher, se baigner, s'allonger au soleil, éclairer à contre-jour de belles déesses sans visage. Ces silhouettes évanouies nous disent simplement leur joie de vivre. Le même charme émane de somptueux jardins d'Anjou et de Touraine et encore de Grèce, où évoluent Arienne, Méléac, Pythagore. Lorsqu'il crée cet écor, où devient presque d'invisible l'exubérance de feuillage et de fleurs. De Pierre se laisse quitter par son enthousiasme en présence de la nature vivante. Cependant, il ne perd pas de vue la règle d'une composition harmonieusement équilibrée. Sa passion de la vie s'étend au domaine le plus divers. Ainsi s'explique l'intérêt que le peintre portait aux chevaux, de vue que mobilisé en 1939, il avait servi dans l'artillerie. La guerre terminée, il avait volontiers filmé les chevaux sur le champ de Gauss. Il en étudiait ensuite le mouvement au ralenti afin de reproduire sur ses toiles. Quant à la figure humaine, à laquelle déclarait-il, j'ai toujours été terriblement attaché. Je n'ai jamais voulu la fuir ni l'ignorer. N'en blesse à certains critiques. L'art du portrait, certes, lui demeure étranger. Même chez ces personnages grandeur nature, qui se laissaient les spectateurs deviner le visage, dont il ne trace que le contour. À ceux qui s'en étonnent, ils répliquent, non sans humour, nous vivons dans un monde où le visage n'apparaît pratiquement plus parce que le temps ne nous permet plus de le regarder.
Vous étiez sous la coupole de l'Institut de France et vous avez écouté les discours de réception à l'Académie des Beaux-Arts du peintre Chu Tae-chung.